Bonjour et bienvenue à tous à cette conférence ECHO en partenariat avec CapScience, le Centre de culture scientifique, technique et industrielle de Bordeaux et la librairie Mola à Bordeaux aussi. Nous accueillons aujourd'hui Stanislas Dehaene. Stanislas Dehaene, bonjour.
Bonjour.
Alors, comme c'est l'usage dans notre cycle de conférences, on commence toujours par un petit portrait chinois pour mieux vous connaître. Basé sur les quatre lettres du mot ECHO, si je vous dis E comme événement, quel est l'événement qui a marqué votre engagement ?
J'ai oublié quelle réponse je vous avais donnée.
Eh bien, donner une réponse.
Je n'ai pas révisé.
C'est pas grave.
Événement qui a marqué mon engagement. Il y en a plusieurs. Ça dépend quel engagement. Mais pour les mathématiques, c'est extrêmement tôt. J'ai commencé à faire des mathématiques grâce à un enseignant, comme beaucoup d'entre nous, qui m'enseignait l'extraction des racines carrées quand j'avais 8 ou 9 ans. Alors je faisais des racines carrées en secret dans la cave pour parce que je trouvais ça un peu étrange déjà et ça m'a lancé dans les mathématiques.
Si je vous dis C comme croyance, quelle est la croyance ou l'idée reçue qui vous désespère ?
Alors c'est l'idée qu'il y a des gens qui sont pas doués et il y a des gens qui sont doués. C'est l'idée que les filles sont moins bonnes que les garçons en maths. Ce sont toutes des idées fausses. Nous avons tous un cerveau d'homo sapiens et nous pouvons tous apprendre tout ce que nous souhaitons et en particulier les mathématiques.
Si je vous dis H comme humain, quelle est la femme ou l'homme qui vous inspire le plus ?
Y en a tellement, je ne sais pas. Récemment, je pensais à Demis Hassabis. Je ne sais pas si vous le connaissez.
Non.
C'est le patron de DeepMind. C'est lui qui a eu le prix Nobel récemment pour le repliement des protéines, qui est une révolution. Et ça nous fait penser que l'intelligence artificielle, vraiment, c'est une révolution en ce moment. Et c'est en grande partie grâce à lui, grâce à la société DeepMind.
Et finalement, si je vous dis haut comme optimisme, qu'est-ce qui vous fait rester optimiste ?
Bon, l'extraordinaire potentiel humain, et en particulier les petits-enfants. D'ailleurs, je suis grand-père maintenant, j'ai 4 petits-enfants. Et quand je vois la vitesse à laquelle ils sont capables d'apprendre, la flexibilité, enfin moi, personnellement, ça me rend très optimiste. Tant qu'il y aura des enfants, tout ira bien.
Merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice. Alors, pour compléter ce portrait, vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale, membre de l'Académie des sciences. Vous présidez aussi le Conseil scientifique de l'éducation nationale et vous avez déjà publié plusieurs ouvrages qui ont fait date, depuis La bosse des maths jusqu'à Une idée dans la tête, mais il y en a eu plusieurs entre les deux qui sont tous très chouettes. Mais nous vous recevons aujourd'hui pour parler de votre dernier ouvrage aux éditions Odile Jacob qui s'appelle Le rectangle de Lascaux avec comme sous-titre Et Homo sapiens inventa la géométrie. Alors, la question de la singularité de l'homme dans le champ du vivant, c'est une obsession depuis aussi longtemps qu'on se souvienne. Dans la tradition judéo-chrétienne, l'homme est créé à l'image de Dieu. Aristote, lui, dit que c'est un animal doué de raison. On a Rabelais qui dit que c'est le rire qui est le propre de l'homme. On a Descartes qui soutient que c'est le langage. Enfin bon, tout le monde y est allé de sa spécificité. Ça a beaucoup changé avec Darwin et la compréhension des mécaniques d'évolution, où là, les frontières ont commencé un peu à se brouiller. John Goodall qui découvre en 60 que des chimpanzés utilisent des outils. Bon, tout le monde y va de... Il y a des consensus sur le fait que certaines espèces ont une conscience d'elles-mêmes avec le test des miroirs, même si c'est contesté. Enfin bon, il y a des groupes d'animaux qui ont des formes de transmission culturelle. Enfin, nous sommes passés d'un statut d'être à part à celui d'être parmi les autres, tout en reconnaissant que notre trajectoire évolutive a des propriétés cognitives d'une complexité sans équivalent. On va aller sur ce champ-là. Dans votre ouvrage, vous prenez et vous démontrez de façon assez passionnante et très didactique, je le souligne parce que c'est absolument essentiel, que notre spécificité humaine peut être liée à notre capacité à appréhender la géométrie. Alors allons-y, le livre s'appelle « Le rectangle de Lascaux » parce que dans la grotte de Lascaux, en dessous, à côté ou dans les peintures d'animaux, on retrouve plus de 400 signes. On va voir ce que c'est qu'un 400 signes, des points, des lignes, des rectangles, des lignes qui se croisent, qui ne se croisent pas. Enfin. Avant de vous donner la parole sur le sujet, moi je voulais juste vous narrer une anecdote récente, puisque à CapScience, on a présenté l'année dernière une exposition avec la première version itinérante de la salle des taureaux. Magnifique. Et alors, du coup, nous, on fait de la médiation. Donc, concernant les signes géométriques, il n'y en a pas des masses dans la salle des taureaux, mais il y en a quand même. On a demandé au comité scientifique qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on peut dire aux visiteurs sur ces signes. Alors, ils nous ont dit ne véhiculez aucune hypothèse, nous ne sommes sûrs de rien. Donc, nous, notre boulot de médiation est quand même très simple. C'est quoi ? On ne sait pas. Bon, ça s'est fait. Et un jour, on avait une classe de seconde qui était là, et donc on leur disait, on leur disait ça, qu'on ne savait pas trop, que c'était très ouvert. Et là, il y a un jeune qui a pris la parole et qui a fait « Pourtant, c'est super simple, la salle des taureaux, en fait, c'est un étal de boucherie. Un auroch, 2 euros, un cerf, 3 euros. » Et il nous dit « Et si vous cherchez bien à côté, il y a une grotte de primeurs. » Moi, ça m'a fait beaucoup. Alors, j'ai envie de vous demander de but en blanc, ces signes de Lascaux, on en sait quoi ?
Alors, ben voilà, on peut voir ces images de Lascaux. C'est pas dans la salle principale, non. C'est dans ce qu'on appelle le diverticule axial. Il y a ce grand cerf noir, et en dessous, vous voyez, il y a un rectangle, et puis il y a 13 points noirs. Donc le cerf est à 13 silex, peut-être. Enfin, les euros n'existent pas.
C'est pas cher. Hein.
C'est pas cher pour un cerf entier. Alors, vous voyez, déjà, le cerf lui-même, il est très intéressant. Parce qu'on dit qu'il est figuratif, on reconnaît un cerf, mais en fait, il y a déjà beaucoup de géométrie et d'arithmétique dans ces bois. C'est presque comme une formule mathématique. Hein. Vous voyez, chacun se termine par 5, comme une sorte de main. Et puis en dessous, il y a deux paires. Évidemment, tout ça est doublé sur chacune des branches. Donc ça fait 2 fois 2 paires plus 5, le tout fois 2. Il y a une sorte de formule. C'est presque comme si le dessinateur avait voulu nous dire j'ai vu un cerf qui était un 18 corps. Voilà. Il ne savait sans doute pas dire 18, on ne sait pas quel était le langage à ce moment-là. Mais il avait les moyens d'exprimer ça. Et alors en dessous, vous avez un rectangle et une série de points. Dans mon livre, j'insiste beaucoup sur le fait que sans doute on ne saura jamais ce que ça veut dire. La sémantique était un peu inaccessible, en particulier parce que le même rectangle dans différentes cultures peut dire des choses très différentes. Mais par contre, la syntaxe est tout à fait claire. Ce sont des formes géométriques régulières, il y a une régularité géométrique, et les anthropologues, les archéologues sont extrêmement clairs quand ils voient une forme géométrique comme celle-là, c'est forcément un être humain qui l'a produite. Les autres animaux, on en reparlera, ne produisent pas des formes de ce type-là. Et alors, c'est pas juste une anecdote à Lascaux, hein, comme vous l'avez dit, déjà à Lascaux, il y a à peu près 400 signes. Il y a des signes qui se retrouvent dans le mobilier, aussi sur une lampe, par exemple, et pas seulement sur les murs. Et là, vous voyez l'extraordinaire ancienneté, déjà, de ces signes, à l'intérieur de l'espèce Homo sapiens. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez cet ocre qui a été trouvé en Afrique du Sud, à Blombos. On estime entre 70 et 100 000 ans. Et vous voyez qu'il y a des lignes parallèles qui sont dessus, qui tracent des triangles équilatéraux ou des hexagones. Donc c'est extraordinaire, c'est déjà une forme assez sophistiquée de décoration géométrique. En dessous, vous avez un zigzag, qui n'a l'air de rien, qui a été trouvé à Java. Il n'a l'air de rien, sauf qu'il est très ancien. 540 000 ans environ, au moins 430 000, d'après les datations.
Et ça veut dire que votre sous-titre est faux.
Oui, probablement. Ça commence avant.
C'est 300 000
ans. Ça dépend ce qu'on appelle géométrie, parce que bon, l'histoire de la géométrie, souvent on la date à Euclide, n'est-ce pas, une capacité vraiment de géométrie formelle. Mais c'est vrai que ça commence avant, et là c'est Erectus. Et si on remonte encore plus loin, on a tous en tête l'existence de bifaces, c'est-à-dire de pierres taillées qui ont des symétries. On voit que parfois l'attention à la symétrie est extrême parce que sur le silex de droite, l'homme a, ou la femme d'ailleurs, on ne sait pas, a repéré qu'il y avait un fossile et s'est débrouillé pour que le fossile atterrisse au centre géométrique de la figure du biface. Et puis il y a quelque chose qui m'a fasciné en explorant d'abord l'ancienneté, hein, c'est jusqu'à 1,8 million, donc on est vraiment au tout début de l'hominisation. Et puis il y a déjà à cette époque-là, des sphéroïdes qu'on voit en dessous. Alors, on dit polyèdre sphéroïde, mais il y a parfois une attention extrême portée à arriver à créer une sphère dans la pierre, ce qui veut dire une attention extrême à la régularité géométrique. Donc, c'est sur la base d'artefacts de ce genre-là que je dis au commencement était la géométrie. Pas au commencement était le verbe. Il y a un langage géométrique, c'est un langage, mais ça n'est pas probablement le langage parlé, c'est un langage plus abstrait.
C'est-à-dire que la géométrie serait apparue, le sentiment de géométrie, ou en tout cas la mise en place d'une. De symétrie avant le langage.
C'est extrêmement ancien, en tout cas.
Et avant le figuratif.
Oui. Et avant le figuratif, absolument, ça c'est très bien attesté. Le figuratif est assez récent, en réalité. Et toutes ces formes géométriques qui n'ont pas vraiment de reflet dans le monde extérieur le précèdent. Voilà.
Et ça, on l'a trouvé partout dans le monde sous des formes quasi similaires.
Alors, il y a une extraordinaire régularité. C'est toujours les mêmes primitives qui servent aux arts décoratifs et aux symboles géométriques partout dans le monde. Oui. Donc on peut penser aux lignes de Nazca, par exemple, au Pérou. Bon, vous avez des lignes toutes droites. Donc les formes de base, ce sont des lignes, des cercles, des spirales, des angles droits et des parallèles. Voilà. Avec ce petit lexique minimal, on arrive à recréer pratiquement toutes les formes que l'humanité a créées. Mais il y a un concept clé dans mon livre, c'est celui de composition. C'est-à-dire que ce qui caractérise les productions de l'espèce humaine, on le voit aussi dans les diapos suivantes, c'est on ne se contente pas de faire une forme, on les compose entre elles. Et donc, très rapidement, même si les primitives de base sont les mêmes dans toutes les cultures, différentes cultures vont diverger dans la manière de les composer. C'était vraiment comme les langues. Il y a une sorte de langage géométrique et les langues divergent. Pourquoi? Parce que l'arborescence des possibilités que peut créer notre cerveau est immense. Quand il y a une grammaire, ça veut dire une productivité universelle.
Et on n'a jamais trouvé de culture sans géométrie.
Je crois pas. Par exemple, il y a énormément des choses qui ne se fossilisent pas forcément, ou qui ne laissent pas de traces, mais presque dans toutes les cultures, on peint son corps. Et encore aujourd'hui, autour de nous, il y a sûrement dans la salle des gens qui sont tatoués, n'est-ce pas? C'est fascinant que ça nous intéresse tellement. Mais donc, en Amazonie, vous allez peindre le corps avec très souvent des lignes et des parallèles, et qui se coupent à angle droit. Voilà. Ça va, on va encore retrouver les mêmes primitifs de base.
Alors, c'est étonnant parce qu'on en a quand même beaucoup, beaucoup de trucs géométriques qui se ressemblent. Et vous dites que quand vous posez une question dans un de vos chapitres qui s'appelle « Y aura-t-il un Champollion de la préhistoire ?» sur l'interprétation, vous dites non, c'est trop risqué.
Ben oui, beaucoup de gens s'y sont essayés. Je montre dans le livre d'ailleurs des images du travail d'André Leroy-Gourhan, qui était au Collège de France, un pionnier extraordinaire parce qu'il a recensé beaucoup de ces symboles et de ces signes géométriques, alors que tout le monde ne s'intéresse pas forcément aux signes géométriques. Hein. Parmi les préhistoriens, souvent on s'intéresse plus à l'art figuratif. Et lui, il a dit non, il y a quelque chose de tout, il y a un phénomène. Mais alors, quand il s'agit d'interpréter, il a eu des interprétations tout à fait fantaisistes qui consistaient à une sorte de division binaire entre le masculin et le féminin. Et alors, bon, il y a parfois des signes, je m'excuse, qui sont manifestement masculins, n'est-ce pas? Mais après, au-delà, il interprète vraiment de façon un peu sauvage ce qui est masculin et ce qui est féminin. Et je crois qu'on ne saura vraiment jamais, pour la simple raison qu'il n'y a pas tant que ça de ces formes géométriques de base. Et donc, on leur attribue beaucoup de sens. Suivant les cultures, elles peuvent avoir des sens très différents. Donc, par exemple, quant à Lascaux, il y a ce qu'on appelle les blasons, c'est-à-dire des sortes de quadrillages. Eh bien, on ne saura probablement jamais si c'était des champs, si c'était le signe d'une tribu ou d'une personne particulière, ou si c'était encore tout à fait autre chose, peut-être plus abstrait encore. Par contre, la syntaxe, elle est limpide, on la voit. Des lignes parallèles, trois ou quatre, qui se croisent à angle droit.
D'accord. Mais cette syntaxe, elle est homogène, c'est la même syntaxe partout, à travers le temps et l'espace.
Alors,
sans savoir ce qu'elle veut dire, c'est le même système d'agencement, de juxtaposition, d'intégration.
C'est intéressant. Moi, je vais commencer à m'intéresser à ce sujet. Je ne suis pas préhistorien. Hein. Je suis spécialiste de sciences cognitives et de neurosciences cognitives. Et on va en parler, mais j'ai fait des tas d'expériences sur la perception des formes géométriques et sur les langages, non seulement le langage parlé, mais les langages des mathématiques, le langage de la géométrie. Mais il y a une rencontre intéressante avec les recherches sur la préhistoire, et notamment Georges Sauvé et sa femme avaient déjà dans les années 70, si je me souviens bien, analysé les formes de la préhistoire et montré qu'il y a une sorte de vocabulaire, de grammaire minimale. Et ils avaient déjà trouvé les mêmes règles de combinaison que nous avons trouvées en sciences cognitives. Donc il y a une convergence assez remarquable entre les disciplines. Et les règles sont très simples, sont les mêmes partout. C'est la capacité de répéter. Donc, par exemple, on l'a vu avec les points en dessous du cerf, répéter 13 points noirs. Bon. La capacité de concaténer des formes, par exemple, un rectangle et une série de points. Et puis, surtout, la capacité de les enchâsser de façon récursive. C'est là qu'il y a une grammaire et que ça commence à ressembler au langage. Dans le domaine du langage, je peux enchâsser une phrase dans une autre. Je peux dire « je pense que » et puis j'insère n'importe quelle phrase. Et « vous pensez que je pense que », etc. C'est récursif à l'infini. C'est ça qui crée la productivité du langage et c'est ça qui fait la singularité de l'espèce humaine pour le langage parlé. Eh bien, c'est la même chose dans le domaine de la géométrie. Donc, n'importe quelle forme peut servir de base à une forme plus complexe. On est capable de produire, par exemple, un carré de points. Il y a dans les peintures, dans les gravures géométriques préhistoriques, il y a parfois des formes créées à partir d'autres formes. Souvent, des points servent à faire d'autres formes. Le contour d'un bison, par exemple. Donc, cette capacité récursive, elle est tout à fait particulière, je pense, à l'espèce humaine. C'est la clé de la singularité de l'espèce humaine.
L'autre truc qui est spécifique à l'espèce humaine, c'est le carré. Vous dites que c'est une forme très spéciale, mais en fait, que pour nous.
Alors, le carré, oui, c'est quelque part, ça a été notre porte d'entrée dans cette singularité humaine. Peut-être, on va pouvoir passer ensemble un des tests qu'on a fait passer dans mon laboratoire et qui a donné une clé d'accès à cette singularité humaine. Le test est extrêmement simple. Je vous montre une image et vous devez trouver l'intrus. Alors, j'espère que vous le voyez du premier coup. C'est très facile. Et ici, est-ce que vous voyez l'intrus? Oui, il est au même endroit, un petit peu plus dur, d'accord, parmi des parallélogrammes. Et puis ici, est-ce que vous voyez l'intrus? Et c'est beaucoup plus difficile, n'est-ce pas? Parce que la forme est aléatoire. C'est un quadrilatère, ce sont tous des quadrilatères, mais la présence de régularité nous permet d'économiser. Alors, on a fait cette expérience où on a présenté 11 quadrilatères différents avec des régularités variables. Vous voyez, ça va depuis quelque chose de très régulier, des parallèles, des angles droits, l'égalité des côtés, c'est le carré ou le rectangle juste à côté, jusqu'à des formes totalement irrégulières. Et on déplace, pour créer l'intrus, on déplace un coin d'exactement la même quantité. Et pourtant, tous les êtres humains ont cet effet de régularité géométrique extraordinaire qui fait que c'est très facile de détecter un intrus parmi des carrés et des rectangles, et de plus en plus difficile, plus vous enlevez progressivement des régularités, ce qu'on voit dans cette courbe ici.
Un animal aussi, non?
Alors, justement, non. Alors, on a eu la chance extraordinaire de pouvoir tester des babouins dans un laboratoire que j'adore, qui est à côté de Marseille. On a des babouins qui sont en semi-liberté, mais qui ont des écrans d'ordinateur tactiles, dans des petites boîtes, des sortes d'Algeco, dans lesquelles ils peuvent rentrer 24 heures sur 24. Alors, il y a des babouins qui vont à 2 heures du matin.
C'est des adolescents, en fait.
C'est des jeux vidéo pour babouins, quoi, essentiellement. L'ordinateur les reconnaît et leur présente la diapo qu'on souhaite, un peu comme je viens de le faire pour vous. Et voilà les résultats des babouins. Ils n'ont aucun effet de régularité géométrique. Pour eux, ils se fichent complètement que ce soit un carré ou un quadrilatère quelconque. Ils sont d'ailleurs, ils ont beaucoup plus de difficultés que nous. Mais vous voyez qu'ils progressent aussi au cours de l'expérience. On fait des milliers et des milliers d'essais. Et donc, ils arrivent à apprendre progressivement ce qu'on attend d'eux. Ils avaient d'ailleurs déjà été entraînés avec la tâche de l'intrus sur des choses très simples, comme trouver une fleur parmi des animaux, des choses comme ça. Et même s'ils progressent, ils n'ont toujours pas d'effet de régularité. Et on s'est servi de cette expérience. On a fait énormément de variations. Vous avez vu, par exemple, que ce n'est pas une question d'éducation. On a des enfants de maternelle qui me présentent déjà un effet de ce type. On a surtout été capable de faire une sorte d'anthropologie cognitive avec un collègue qui part en Namibie, chez les Himba de Namibie, des personnes qui n'ont pas d'accès à l'éducation formelle, qui n'ont pas d'ailleurs un environnement carré comme peut être le nôtre, très régulier, et qui présentent encore un effet de régularité similaire. Donc il y a vraiment quelque chose de supplémentaire dans l'espèce humaine. Il n'y a pas besoin d'être Einstein, contrairement à ce que je montre un peu de façon facétieuse, là. Mais on a tous...
Il n'a pas, pas passé le test.
Il n'a pas passé le test.
Voilà. C'est si ça se trouve.
Un peu trop récent. Voilà. Donc l'intuition de la forme géométrique, il est là, c'est chaque être humain. D'ailleurs, sans distinction entre les garçons et les filles en mathématiques, on en reparlera peut-être, mais tous les tests en dessous de 5-6 ans montrent pas de distinction entre garçons et filles. On a tous ces capacités-là, alors qu'on ne le voit pas chez d'autres espèces animales, en tout cas pour l'instant.
C'est une des grandes questions de votre livre régulière, c'est est-ce que c'est inné ou est-ce que l'éducation a un impact sur le fait de reconnaître ce carré? Est-ce que vous dites, par plein d'expériences tout à fait passionnantes, d'ailleurs, on en reviendra peut-être, c'est qu'à chaque fois, c'est inné. La majorité sont innés.
Non, ça, ce serait exagéré de dire ça. Les primitives sont innés. Donc, on a un sens inné du nombre, on a un sens inné de la régularité géométrique des formes les plus élémentaires, la ligne droite, par exemple. Mais au-delà de ça, ce qui est inné aussi, c'est la grammaire, c'est-à-dire la capacité de les combiner. Mais les combinaisons elles-mêmes ne sont pas innées. Donc, il faut apprendre. Ce qui est une combinaison intéressante. Toutes les cultures n'ont pas pensé au carré. Toutes les cultures ont des concepts innés de parallélisme, par exemple, ou de symétrie. Il y a d'ailleurs des manips assez jolies. On peut faire des expériences au laboratoire sur des enfants de moins d'un an. On a des techniques pour ça. Et les enfants de moins d'un an ont des bébés, donc ont déjà le sens de la symétrie. Ils sont capables de repérer une forme symétrique par rapport à des formes non symétriques. Mais voilà, les primitives sont là. La grammaire est là, il reste encore à faire tourner cette grammaire pour créer des concepts nouveaux. Et apprendre les mathématiques, c'est quelque part recombiner les concepts pour en créer de nouveaux.
C'est peut-être le moment de parler des enfants.
Oui, volontiers.
C'était peut-être pas le moment qu'on avait convenu, mais c'est peut-être le moment parce que justement, eux, dès le départ, ils ont les primitifs qui s'affirment très fort.
Alors justement, un des chapitres du livre est consacré au dessin d'enfants. Parce que je trouve ça extraordinaire.
Ce qu'on appelle des gribouillages.
Alors justement, les parents s'en moquent un petit peu, parce que c'est drôle, ça ressemble pas trop à l'objet que les enfants cherchent à repérer. Là, on voit une base de données qui a été créée par un collègue en Californie, et puis à gauche, c'est mes petites filles qui ont dessiné. C'est magnifique. Vous voyez, ça a l'air de rien, mais on utilise plutôt des formes carrées pour faire la maison, et plus des formes rondes pour faire la tête, par exemple. Il y a des lignes parallèles. Regardez les mains. Ça, c'est extraordinaire. Les mains ont 5 doigts, mais en réalité, c'est une espèce d'étoile à 6 branches, avec une qui est le bras et puis les autres, c'est les doigts. Jamais une main n'est comme ça, bien sûr. Elles ont abstrait juste ce qu'il faut. Juste, elles sont allées au cœur de ce qui constitue l'objet humain. Alors, effectivement, on s'en moque, on voit un dessin de canard comme ça, et il y a un site assez amusant qui a créé à quoi ressemblerait l'objet si s'il était comme les enfants le dessinent. Donc, vous avez aussi un poussin ici. Voilà. On peut s'en moquer, mais il n'y a pas une intelligence artificielle qui fait ça actuellement. Voilà. C'est-à-dire qui est capable de prendre une photographie du vrai objet et d'arriver à aller jusqu'au cœur de ce qui fait l'abstraction même de l'objet, le squelette abstrait géométrique de l'objet. Et ça, c'est une prouesse des jeunes enfants qui vient très tôt, qui vient spontanément, autant qu'on puisse dire, et qui s'applique dans toutes les cultures et qui fait aussi ressembler les dessins d'enfants aux productions des adultes. Et là, on revient à la préhistoire ou à, disons, l'art spontané, l'art rupestre. Vous avez plusieurs exemples ici. On retrouve des parallèles assez étroits entre les deux, notamment dans les primitives graphiques qui sont utilisées. Et dans ce que un psychologue qui s'appelle Luquet, qui travaillait déjà dans les années 1920-1930, avait appelé le réalisme intellectuel. Je trouve que c'est un terme assez juste. C'est-à-dire que ce ne sont pas des dessins réalistes, mais intellectuellement, ça l'est. C'est-à-dire que ça va au cœur du concept que l'enfant cherche à représenter. Par exemple, vous n'allez jamais voir un cheval comme peut l'être celui d'ici à droite, mais il y a les quatre pattes. Il y a les sabots qui sont représentés sous forme de rectangle, n'est-ce pas? Le corps est un rectangle. Et vous avez le bon attachement des parties entre elles. Vous avez la topologie qui est à peu près respectée, un aspect métrique qui n'est pas mauvais non plus. Les nombres sont là. Vous voyez, c'est exactement ça. Les primitives géométriques sont déjà présentes chez ces jeunes enfants. Et par exemple, les roues, mais réalisme intellectuel, ça veut dire on n'a jamais vu des roues comme ça, un char. On n'est jamais le voir comme ça. La roue, on la voit comme un cercle, alors que quand vous regardez un verre ou une assiette, encore mieux, jamais vous ne voyez un cercle. Il faut le regarder sous un angle tout à fait particulier. Notre cerveau projette un cercle là où il n'y en a pas. Donc ça, c'était un thème très important du livre. C'est parce que nous avons cette grammaire générative des formes dans notre tête que nous pouvons la projeter sur le monde extérieur. C'est pas l'inverse. En intelligence artificielle, aujourd'hui, on est une forme d'empirisme extrême. Il faut que l'intelligence absorbe tout ce qui vient du monde extérieur. Et il faut des milliards d'essais d'entraînement pour qu'enfin la machine fasse quelque chose. Le cerveau ne fonctionne pas du tout comme ça. Le cerveau projette des idées sur le monde extérieur et seule la machine humaine a cette capacité de projeter des idées géométriques très abstraites sur le monde extérieur.
Et on va revenir après sur comment ça se passe dans le cerveau, mais vous montrez aussi que la géométrie nous offre des capacités d'anticipation et de prédiction bien meilleures que ceux que les espèces qui n'ont pas ce petit acquis de départ d'intuition géométrique.
Alors, je crois que vous voulez que je parle d'une autre expérience.
Parlez de ce que vous voulez, mais si ça parle du Bloop, c'est bien.
Mais voilà, on a fait une expérience assez sympathique aussi et qui continue d'être développée, y compris en neurosciences. Maintenant, c'est devenu vraiment une expérience clé un petit peu. Alors, je vais essayer de vous la lancer pour vous. Vous voyez ici l'écran que voit un jeune enfant. En fait, c'est la version pour enfants ici. Donc, on leur explique qu'il y a 8 mares qui forment cette espèce d'octogone. Là, on leur dit pas octogone, évidemment. On leur dit qu'il y a 8 mares dans lesquelles peut se cacher un poisson qui s'appelle Bloop. Voilà. Et tu vas voir ce poisson se cacher dans les différentes mares. Essaye de deviner où il va aller ensuite. Alors, vous êtes le gamin de disons, 4 ou 5 ans. Hein, et voilà Bloop. Normalement, il fait un petit peu de bruit aussi. Voilà, j'arrête le dessin animé. Où va Bloop? Vous savez, je crois que tout le monde sait, il va aller, alors je n'ai pas vraiment de télécommande, mais il va aller ici, il va aller ici, et il va aller ici. Mais comment vous le savez, vous n'avez jamais vu cette séquence. Vous savez, en intelligence artificielle, on parle d'apprentissage en un essai, c'est un des objectifs. Mais là, vous avez appris en moins d'un essai, en réalité. C'est assez étrange. Bon, ce qui vous fait dire ça, c'est que vous avez un sens de la régularité géométrique. Et le zigzag, c'est une des formes les plus régulières qui soit. Ça trace des segments parallèles les uns aux autres, même s'ils sont penchés, ils sont parallèles. Et donc, très automatiquement, vous et d'un enfant de 5 ans, vous avez détecté la régularité géométrique et vous l'avez comprimé. C'est-à-dire, cette séquence est facile à retenir aussi, même si j'avais présenté les 8, là, si je vous demande de la reproduire, elle est plus facile à retenir que les autres parce que il y a un code cérébral dans votre tête qui vous permet de retenir la régularité et pas le détail de chaque séquence. On a choisi des séquences avec 8 positions parce que 8 positions, ça va au-delà de la mémoire de travail normale. 8, c'est trop grand pour notre mémoire de travail. Et effectivement, si on fait une séquence aléatoire de 8 positions, vous n'arriverez pas à la retenir en un seul essai. Mais ici, parce qu'elle est régulière, votre cerveau est capable de la comprimer et de la retenir dans le cortex préfrontal. Alors, c'est une expérience qu'on a faite chez l'enfant, on l'a faite aussi chez l'adulte, on l'a faite en IRM, on l'a faite en magnétoencéphalographie. Maintenant, j'ai un collègue à Shanghai qui essaye d'enseigner à des singes macaques ce type de tâche et qui n'y arrive pas. On ne peut pas faire une séquence de 8 items chez le singe macaque, en tout cas pour l'instant, parce qu'il n'a pas cette capacité de grammaire géométrique qui lui permet de comprimer l'information. Donc pour lui, c'est 8 positions individuelles et du coup, c'est quasiment impossible à retenir. Mais on commence à comprendre le code neural qui permet de cette compression. On le voit chez l'animal et on va commencer à le voir maintenant dans l'espèce.
Et ce code neural, il est plus efficace encore que si on le codait en informatique. Alors, la compression est meilleure dans notre cerveau que ce qu'on pourrait faire en code.
Non, je n'irai pas jusque-là parce qu'on a quand même on a cette métaphore en tout cas d'une sorte de programme mental. Lorsque vous regardez cette séquence, non seulement vous voyez des positions successives, mais votre cerveau reconstitue un programme dans une sorte de langage informatique. Un petit peu comme pour ceux qui connaissaient le début de l'informatique, le langage Logo qui avait été créé pour déplacer une tortue sur l'écran et faire des dessins sur l'écran, une sorte de logo mental qui nous permet d'avoir faire des boucles et de dire là ici il faut dire répète 4 fois de tracer un segment parallèle les uns aux autres, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui se répète 4 fois ici et vous inférez le programme lorsque vous voyez une forme géométrique. Alors là on rentre dans le détail un petit peu plus des sciences cognitives que j'essaie d'expliquer le mieux possible dans le livre, mais l'idée c'est que on a ces programmes mentaux, ils nous servent à produire les formes, mais ils nous servent aussi à reconnaître les formes. Reconnaître une forme, c'est inférer quel est le programme mental qui a servi à la produire. Et si on comprend une forme, c'est parce qu'on est capable de la reproduire. L'espèce humaine est capable de dessiner ce qu'elle comprend. Ça va pas du tout de soi. C'est une représentation suffisamment abstraite pour être commune à la perception et à la production. Voilà. Que d'autres espèces n'ont pas.
Que d'autres espèces n'ont pas ou toutes les autres espèces n'ont pas, on sait pas trop.
Ben, on n'en est pas complètement sûr. Alors, vous savez, le mot d'ordre du Collège de France, c'est enseigner la recherche en train de se faire. Alors là, si vous lisez le bouquin, vous allez voir la recherche en train de se faire. Donc, je dirais pas qu'on va jamais être contredit, hein, mais ce sont des recherches qui ont une dizaine d'années pour la plupart. Et puis, je parle aussi quand même des recherches plus anciennes sur le langage des primates, le langage des chimpanzés. Il y a toute une thématique de recherche qui a consisté à essayer d'adopter même des chimpanzés dans une famille pour leur faire vivre l'expérience d'un enfant en se disant mais s'il est adulte c'est trop tard, mais peut-être si on l'adoptait dès la naissance il apprendrait comme nous. Il y a toujours cette vision très empiriste qui est fausse, que après tout c'est une question d'environnement, il suffit de farcir l'environnement de ces animaux de la même expérience qu'un petit être humain et ils vont apprendre comme nous. Ça s'est avéré complètement faux, et je raconte ces histoires dans le livre. Les rares productions linguistiques, si on peut dire, souvent avec du pointage vers des formes qui sont comme des mots, n'ont pas du tout d'organisation syntaxique, même chez les chimpanzés. Voilà. Et ils ne sont absolument... Alors, le dessin chez ces animaux n'existe pas. Vous pouvez leur donner un crayon, vous pouvez les entraîner, montrer qu'ils sont capables de dessiner, que ça fait un trait sur une feuille de papier, ils font des gribouillis. Il y a même des expériences où on leur donne une forme presque complète, par exemple un visage dont il manque les deux yeux. Alors l'animal va les gribouiller à peu près à l'endroit où il manque des choses. Mais c'est tout, il ne fait pas ce que fait un enfant très jeune, c'est-à-dire compléter avec deux yeux.
Un autre des atouts qu'a l'homme en termes de compétences géométriques, c'est assez abstrait, mais c'est très important, c'est la différence entre la capacité à comprendre le discret et le continu. Alors ça m'a beaucoup épaté parce que je me suis dit le continu c'est évident, mais vous dites le continu non, c'est vraiment quelque chose de très compliqué et de très théorique.
En tout cas, il semblerait qu'il y ait les deux.
Le discret dimensions. Pour tout le monde, c'est
alors, le discret, c'est les nombres entiers. Hein. Donc, quand on voit les 13 points par exemple, chacun est bien isolé et probablement ça servait à compter. Il y a quelque chose qui a dû être compté. 13, peut-être pas anecdotique, c'est à peu près le nombre de lunaisons, 12 ou 13 dans une année, n'est-ce pas? Donc peut-être il y a quelque chose dans ce nombre 13. Alors le continu, c'est effectivement la capacité de tracer un trait continu et de le concevoir comme quelque chose de rigoureusement continu. Donc par exemple la spirale, dans notre langage de l'esprit, on a créé, je vais un peu vite là, mais on a créé avec mon collègue Mathias Sablé-Meyer, mon thésard, un langage formel qui capture toutes les formes que toutes les cultures humaines sont capables de produire. Et on est obligé de postuler effectivement qu'il y a une capacité de dessin continu, d'un trait par exemple. Alors le trait tout droit, c'est la formule de base. Le cercle, c'est la même chose que le trait droit, mais avec une courbure constante. Donc, au lieu d'avoir une courbure zéro, il y a une courbure constante. Ça permet de tracer un cercle. Et la spirale, c'est la même chose avec une courbure qui augmente ou qui diminue. Ou une courbure constante, mais on accélère le trait. En général, c'est ce qu'on fait. Donc, on est capable d'expliquer le trait droit, le cercle ou l'arc de cercle et la spirale par un programme extrêmement similaire. Voilà. Et ça explique que dans toutes les cultures, ces formes sont les plus simples. Il y a une théorie qui est que plus le programme est court, plus la forme va se retrouver dans toutes les cultures. Plus elle est simple pour l'espèce humaine, et donc plus elle va être facile à reproduire, à mémoriser et à découvrir par différentes cultures. Et plus le programme devient riche et complexe, plus on s'éloigne finalement du point de départ, plus il faut avoir une éducation mathématique ou une éducation artistique pour composer ces formes.
Et comment on passe de la géométrie au nombre et à l'arithmétique ? Est-ce que c'est inné aussi, ou est-ce que c'est un lien de l'un vers l'autre?
Oui, c'est une magnifique question. En mathématiques, il y a un lien très étroit entre arithmétique et géométrie. Et d'ailleurs, on pourrait montrer quelques exemples de ça, mais le passage de l'arithmétique à la géométrie est une source constante de production mathématique. Par exemple, on a la notion de ligne numérique. Les nombres ne sont pas juste des individus à côté des autres, 2 et 3, ils forment une ligne. Voilà. Et ils peuvent servir à mesurer l'espace. Et si on commence à mesurer l'espace avec les nombres, on commence à se demander, oui, mais les espaces intermédiaires, comment on les mesure? Alors on arrive au concept de fraction, ou on arrive au concept de nombre réel. Chez les Grecs, ça a été un traumatisme absolument extraordinaire, parce que les pythagoriciens avaient l'idée que tout était nombre, que tout était nombre entier. Et puis, ils se sont posé la question, mais quelle serait la mesure avec un nombre de la diagonale du carré? Et vous y réfléchirez, ce sera l'exercice ce soir, mais vous y avez peut-être déjà réfléchi. La diagonale du carré, ça ne peut pas être commensurable avec le côté du carré. Ça ne peut pas être une fraction entière du côté du carré. C'est un autre objet. Qu'est-ce que c'est que ce nombre-là? C'est quelque chose de... On a l'idée que toutes les dimensions sont mesurables, mais la diagonale du carré, on ne peut pas la mesurer avec des nombres entiers.
Encore une fois, le carré, on y revient.
Alors oui, le carré est omniprésent. Hein. Ben, c'est normal, c'est la forme de base. Voilà.
Et la ligne droite. Carré et le nombre.
Alors, la racine carrée. Alors, les gens disent le carré d'un nombre. Vous avez déjà réfléchi à ça? On a l'impression que c'est une sorte d'homonyme, mais un petit peu comme deux mots, plutôt un mot qui a deux sens différents. Mais non, le carré d'un nombre, c'est simplement comme vous disposez des objets en carré. Donc, mettons que vous fassiez 3 rangées de 3, ben vous allez avoir le carré de 3, vous allez avoir 9. Voilà. Et jusqu'à 17e, 18e siècle, on parlait du triangle d'un nombre, parce qu'on pouvait mettre les nombres en triangle. On ne dit plus ça aujourd'hui, mais le carré d'un nombre, c'est resté. C'est une bonne illustration de l'aller-retour entre arithmétique et géométrie, qui est vraiment la clé des mathématiques. Alors, pardon, je n'ai pas répondu à votre question au départ, qui est-ce que c'est inné? Oui, c'est assez stupéfiant, mais toutes et beaucoup d'espèces animales, là pour le coup, pas seulement l'espèce humaine, ont cette idée que les nombres vont avec l'espace et que les petits nombres vont à gauche et les grands nombres vont à droite.
Et il y a une sorte de ligne numérique à gauche, les petits nombres,
on préfère avoir les petits nombres à gauche et les grands nombres à droite. C'est complètement inconscient, mais on peut le montrer très facilement par des expériences de psychologie cognitive, et c'est vrai aussi chez les très jeunes enfants. Avant même qu'ils soient allés à l'école, dans la première année de vie, même à quelques jours de vie. Et c'est vrai aussi de beaucoup d'espèces animales qui ont été testées. Donc déjà, là, il y a une intuition très profonde que le nombre et l'espace vont ensemble et que l'un va pouvoir mesurer l'autre.
Vous pouvez nous expliquer, parce que moi, je me souviens de l'expérience, justement, pour le voir auprès des tout-petits-enfants, cette histoire. Mmh. C'est l'effet Snark, c'est ça? C'est comme ça qu'il s'appelle? Comment on vérifie que les tout bébés ont cette notion d'orientation des petits nombres à gauche?
Et alors ça rentre dans des expériences un petit peu subtiles, mais on va se servir de leur capacité de réagir à la nouveauté et à la surprise. Une des réponses vraiment majeures en psychologie, c'est qui existe dès la naissance, c'est la capacité de l'enfant de s'étonner lorsqu'il voit quelque chose de surprenant. Et donc, on est capable de mesurer, par exemple, combien de temps il regarde, tout simplement, ou bien est-ce qu'il écarquille les yeux, est-ce que la pupille a dilaté, etc. Et on va voir que le bébé réagit à des choses impossibles. Par exemple, si vous lui montrez 1 plus 1 donc un objet qui se cache derrière un écran, un deuxième objet qui se cache derrière un écran. Si l'écran s'abaisse et qu'il y a trois objets, le gamin est complètement stupéfait parce que 1 plus 1 n'égale pas 3. Pour lui, il faut que ça fasse 2. Donc il a déjà une notion de la permanence de l'objet. D'ailleurs, tout ce qu'a dit Piaget sur cette question est faux, puisqu'on a déjà la permanence de l'objet essentiellement dès la naissance. Alors, pour montrer les liens entre nombre et espace, c'est un petit peu plus compliqué, mais on peut habituer, par exemple, l'enfant avec des longueurs continues, et ensuite montrer qu'il transfère cette habituation à des nombres discrets, et que donc s'il voit par exemple des longueurs qui croisent de la gauche vers la droite, il est surpris lorsqu'il voit des chiffres qui croisent de la droite vers la gauche, ce genre de choses. Ça devient des expériences un peu sophistiquées.
Il y a beaucoup d'expériences décrites dans votre livre. Moi, ça m'a beaucoup intéressé de voir justement comment on se posait la question de savoir si un chimpanzé pouvait faire la même chose. Protocolairement, ça, c'est intéressant.
Ah oui, c'est pas évident.
Hein, mais non, on arrive. C'était très intéressant parce que vous dites des trucs sur les abeilles. Parce que justement, on peut aller là. On a parlé beaucoup là, l'être humain, tout ça, mais on reprend le schéma dans l'autre sens. Vous l'avez dit vous-même, les animaux ont la notion des nombres. Ils ont la notion du zéro, la notion du rien. Ils ont la notion de translation.
Oui, absolument. Donc ils ont les primitives. Et notamment, oui, le zéro, ça c'est des
mais pas les formes. Ils ont les primitives.
Mais pas les combinaisons. Voilà. C'est très difficile pour eux de concevoir des combinaisons de ces primitives. Et ils n'ont pas vraiment de symboles. Alors ça, c'est un peu polémique, mais donc quand on dit qu'ils ont zéro, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? On veut dire qu'ils sont capables de regarder une scène et de coder, est-ce qu'il y a un objet, est-ce qu'il y a deux objets, est-ce qu'il y a trois objets. Alors, je crois que j'ai une diapositive là-dessus, puisqu'on en parle. Donc voilà. Là, vous avez un résultat qui est quand même magnifique, c'est qu'il y a dans le cerveau du singe macaque des neurones qui répondent au nombre d'objets qu'il y a sur l'écran. Et j'ai pas mis de zéro là, mais vous voyez qu'il y a des neurones qui répondent à un objet, d'autres qui répondent à deux objets. Et c'est une courbe en cloche, c'est-à-dire que les neurones ne sont pas discrets. Ils ne répondent pas exactement à deux. Quand un neurone qui répond à deux, on le voit en bas ici, celui-ci. Un neurone qui répond à deux, bah, il répond aussi un petit peu à trois et un petit peu à quatre. C'est une courbe d'approximation. Et alors, avec cette même méthode, plus récemment, les chercheurs ont vu que si on mettait un cercle vide, alors que le singe s'attend à ce qu'il y ait 1, 2 ou 3, lorsqu'on montre un cercle vide, eh bien, il y a d'autres neurones qui répondent au zéro, c'est-à-dire à l'absence d'objet. Et ces neurones sont tout à fait à gauche de la courbe.
C'est des neurones dédiés par nombre. On a des espèces de
plus ou moins, plus ou moins, puisque vous voyez qu'il y a un recouvrement, hein, il y a une distribution. Mais oui, il y a des neurones qui sont dédiés à ces différents nombres avec une courbe en cloche, avec une courbe d'approximation. Et il y en a qui répondent quand il y a zéro. Alors c'est pas le symbole zéro, c'est pas le chiffre arabe zéro, c'est la quantité zéro. Et ça n'est pas cet aspect discret que nous avons non. Donc il y a aucune espèce animale qui est capable de distinguer, disons, 17 de 18. Et comme nous, de dire 18 est pair, 17 est premier, c'est des nombres complètement différents.
Ça veut dire qu'ils discrétisent pas le signal, c'est-à-dire qu'ils le transforment pas, cette espèce d'approximation des neurones 17-18 qui envoient un signal, ils décident pas que c'est 17, ils savent pas que ça existe.
En fait. Exactement. Mais ils ont des neurones qui sont accordés à peu près 20.
Mais nous, on n'arrête pas de décider. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit 17 ou faut que ce soit 18.
Mais seulement quand on est éduqué. Et c'est là qu'on voit l'apport de l'éducation. L'éducation nous a permis de suivre la chaîne des nombres, de comprendre qu'à chaque nombre, il y a un nombre n plus 1. Il y a n, n plus 1, n plus 2. Et que donc chacun va être différent. Et on a pu montrer avec des expériences en Amazonie, que je raconte aussi dans le livre, mais déjà auparavant, hein, que lorsqu'on a pas eu reçu une éducation formelle en mathématiques, alors on n'en est pas capable de ça. On n'a pas appris, tout simplement. Voilà. Nos expériences en Amazonie consistaient, par exemple, à faire des expériences où on montre un nuage de points qui disparaît dans une casserole, très concret, parce qu'il faut qu'ils comprennent, un panier, disons. Donc, mettons qu'il y ait 6 points qui viennent se cacher dans un panier, et puis il y en a 4 qui repartent. Et combien il y en a dans le panier? Nous, on est capable de dire, bah, c'est exactement 2. Mais si vous n'avez pas appris à compter, vous n'êtes pas allé à l'école du tout, vous ne savez pas. Vous savez que c'est à peu près 2, mais vous avez pas mal de chances de répondre 1 ou 3 ou même 0. Et c'est encore une courbe en cloche, c'est la même que chez l'animal. Donc nous partageons avec les animaux ce sens approximatif des nombres, mais grâce à la capacité de symbole et de composition, si on construit cette culture mathématique, on est tous capables de le faire, y compris les Indiens d'Amazonie, eh bien, on va développer le nombre exact, le sens de la mesure, les formes géométriques, et on peut aller bien au-delà, évidemment, jusqu'à construire tout l'édifice des mathématiques.
Vous avez passé plein de slides là, ce qui expliquait la singularité de l'être humain. Est-ce que je peux vous laisser nous expliquer, du coup, compte tenu de tout ça, tout ce qu'on a dit au départ, comment cette singularité se traduit dans le cerveau? Parce que c'est une histoire de cerveau, quand même.
Alors oui, puis c'est aussi mon métier, n'est-ce pas? Mon métier principal, c'est quand même de faire de l'imagerie cérébrale avec des outils merveilleux qu'on a dans le centre Neurospin, et en particulier de l'IRM. Alors oui, j'ai sauté quelques diapos qu'on peut regarder. Donc déjà, pour vous dire, quand on faisait l'expérience de Bloop le poisson, ou tout simplement lorsqu'on présente une forme géométrique par rapport à d'autres images, comme l'image d'un visage ou l'image d'un sèche-cheveux ou d'une maison, je ne sais pas si vous arrivez à voir là, eh bien, il y a un réseau qui répond aux formes géométriques. On le voit en rouge ici. En réalité, c'est assez intéressant, toutes les aires ventrales du cerveau qui nous servent à reconnaître les visages, les objets, les lieux, se déactivent. Et à la place, on voit s'activer un réseau dorsal, notamment dans le cortex pariétal, ici en arrière de la tête, dans les deux hémisphères, qui répond aux mathématiques, qui répond aux formes géométriques, aux symétries. Et ce réseau, on l'avait déjà vu lorsqu'on étudiait l'arithmétique. Lorsque je vous demande de faire un petit calcul mental, c'est cette région en rouge, là, qu'on voit au milieu du lobe pariétal, s'active systématiquement. Donc tous ici dans la salle, si vous faites un calcul, vous activez cette région. Et si vous pensez à un carré, ou si vous voyez un carré, vous activez cette région. Ou si je vous pose une question avec une phrase, je vous dis un triangle à 5 côtés. Vous dites non, c'est faux, vous avez activé cette région-là. Vous avez, tous vos concepts mathématiques sont abrités dans cette région-là. Et alors, une des choses frappantes qu'on a pu montrer, c'est que ça va très très loin. Si vous prenez des mathématiciens professionnels, vous leur demandez de parler ou d'écouter des phrases qui sont complètement incompréhensibles par le commun des mortels, parce qu'elles parlent de jargon mathématique, mais eux comprennent, eh bien, ils activent toujours cette région-là. C'est la région qu'on voit en bleu ici.
Du coup, elle s'active plus densément, il y a plus de neurones, il y a plus de connectiques. Pourquoi ils sont meilleurs?
Ça, c'est un mystère qu'on n'a pas encore totalement compris. Non, il n'y a pas plus de neurones. Alors, stock de neurones, on l'a à la naissance. Donc, on peut pas rajouter des concepts en rajoutant des neurones. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? D'abord, on est en train de faire des expériences en ce moment même sur les enfants qui sont en train d'apprendre entre la grande section de maternelle, le CP, le CE1, et on voit quand même ce réseau grossir un tout petit peu et augmenter un tout petit peu d'activité. Mais surtout, on pense que c'est la combinatoire des neurones, toujours cette idée de composition, avec un stock fixe de neurones, mais vous avez plein de combinaisons. À la naissance, la plupart ne sont pas utilisés. Notre idée, c'est que l'apprentissage, ça consiste à assigner à certaines de ces combinaisons un sens. Et donc, comme il y a plein de combinaisons, vous pouvez avoir le même stock de neurones, mais enrichir le nombre de combinaisons possibles. Et on commence à le voir avec l'imagerie cérébrale. Alors, pour bien comprendre, donc c'est la même région que l'on voit chez le singe. Je crois que je l'ai mise ici. Voilà. Et ce sont des régions tout à fait homologues qui existent chez le singe et chez l'homme. Mais chez l'homme, elles ont énormément grossi. Et elles sont capables de composition symbolique. Les cerveaux de singes ne codent pas les symboles de façon discrète, mais nous, avec la même région, on a dépassé cette capacité, ce flou de l'approximation, on est capable d'avoir un code symbolique. Et si on parle simplement d'évolution, je crois que là, on va peut-être passer un petit peu des choses qui sont trop complexes. Voilà, voilà une idée de notre cerveau par rapport à celui d'un chimpanzé. Il y a une différence de taille majeure. Faut pas oublier ça, c'est que c'est quand même simplement le nombre de neurones dans le cortex, en particulier 16 milliards dans notre cortex. C'est un nombre beaucoup plus important que chez le chimpanzé, c'est quelques milliards. Et cette expansion du cerveau semble s'être produite précisément dans les régions associatives du cortex frontal, du cortex pariétal, un petit peu de la base du lobe temporal, qui sont celles que l'on voit activées dans la géométrie, dans les mathématiques.
Ce que vous dites, c'est qu'il y a une mutation, enfin en tout cas une bifurcation. Il y a 1,7, 1,8 million d'années qui, tout d'un coup, a déclenché la capacité chez l'homme à avoir cette intuition ou cette inné de compréhension des formes géométriques. C'est un accident.
Il y a quelque chose qui commence il y a 1,7 million d'années.
J'ai pas les bons
mots, j'en suis conscient. Non, parce que c'est voilà, Chomsky pensait que c'était un événement discret. Noam Chomsky, linguiste, il a dit à un moment, il y a une mutation, ça y est, on est devenu capable de langage. Je crois pas du tout que ce soit comme ça. Mais il y a un événement particulier qui commence 1,7 million d'années, de cet ordre-là. On le voit ici, la taille du cerveau commence à augmenter vigoureusement. Il y a une solution nouvelle qui est trouvée, qui permet d'accéder à un espace évolutif nouveau. La compréhension abstraite du monde par le biais des symboles. Au départ, je pense qu'il y a de la science. l'avantage évolutif des êtres humains, c'est un avantage générique dans la capacité de représentation abstraite des régularités du monde extérieur. Et on le voit en science, on l'applique partout. On est capable de l'appliquer pour la compréhension des autres espèces animales, pour la compréhension des matériaux qui nous entourent, pour la compréhension de l'espace. Je trouve ça absolument extraordinaire au passage. Notre cerveau nous permet de faire de la science de pratiquement tous les domaines. On a compris les galaxies, on a compris l'atome, on n'a absolument pas évolué, ni pour l'un ni pour l'autre, bien sûr. Mais quelque chose s'est produit il y a 1,7 million d'années qui a créé cette machine à faire du sens de tout. Une espèce de machine générique, un petit peu comme, vous savez, si vous faites un peu d'informatique, il y a un moment où il y a une machine de Turing qui acquiert la capacité de calcul de n'importe quelle machine de Turing. Il y a les machines de Turing universelles. Je pense qu'il y a quelque chose de similaire qui s'est produit dans le cerveau humain, une machine universelle à produire du sens. Alors, elle n'est pas hyper efficace au départ, elle gagne en efficacité, sans doute en suivant cette courbe de croissance du cerveau qu'on voit ici à travers les recherches paléoanthropologiques. Et si on compare aussi notre espèce avec les autres espèces de primates, vous voyez que non seulement le cerveau augmente, mais les régions en rouge sont celles qui augmentent le plus, notamment le cortex préfrontal. On ne voit pas très bien ici, mais dans le sillon intrapariétal et dans le lobe temporal.
Le rouge, c'est quoi? C'est la densité d'activité, c'est quoi?
Non, c'est l'augmentation de la surface du cortex. D'accord. Par rapport à un animal de référence. Je crois que c'est le marmousé ici. Donc c'est un facteur 32 dans les aires en rouge. C'est une énorme expansion de la surface corticale. C'est sûrement pas la seule explication, mais on voit en tout cas qu'il y a un réseau particulier qui a déjà commencé à s'amplifier considérablement.
Et on a les mêmes neurones?
C'est les... Ah, alors ça, c'est encore une différence.
Parce qu'on peut augmenter la taille si on a... Si
oui,
on...
il n'y a pas que la surface du cortex qui augmente, il y a le nombre de neurones. C'est déjà pas mal. Hein. Donc on sait, il y a d'ailleurs certains gènes qui ont été identifiés, qui prolongent de simplement 2 jours la multiplication, la prolifération cellulaire des neurones dans le cerveau humain, et ça suffit pour créer ce changement de surface considérable entre le chimpanzé et l'homme. Ça, c'est bien identifié. On sait maintenant quels gènes sont impliqués.
C'est un gène qui prolonge de 2 jours la multiplication neuronale.
Et comme c'est exponentiel, la multiplication cellulaire, elle suit une courbe exponentielle, donc il suffit de prolonger d'une durée qui est relativement courte, et ça suffit pour créer un cerveau beaucoup, beaucoup plus gros. Ou inversement, si ce gène est muté chez
tout l'homme,
créer une micro... Ah oui, tous les membres de l'espèce humaine, je pense que tout le monde dans la salle... Non, il y a les microcéphalies, qui sont évidemment dramatiques. Alors, qu'est-ce que j'ai... Voilà, au niveau cellulaire, donc c'est le dernier chapitre du livre. On cherche la singularité humaine partout où on peut la trouver. Alors, on trouve des caractéristiques singulières à toutes les échelles. Et en particulier à l'échelle d'un neurone, vous voyez ici, les neurones d'Homo sapiens sont à la fois beaucoup plus grands, beaucoup plus branchus. On voit cette arborescence dendritique qui est immense, qui permet de recevoir beaucoup plus de synapses des autres neurones. Donc on est beaucoup plus interconnectés. Ces neurones sont plus espacés entre eux. Il y a beaucoup plus d'inhibition dans le cortex humain. Ça, c'est pas compris encore. On ne sait pas vraiment à quoi ça sert.
Inhibition, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il y a des neurones excitateurs qui s'excitent les uns les autres, mais pour pas qu'on devienne épileptique, il y a aussi des neurones inhibiteurs qui interrompent cette activité, qui viennent empêcher que tous les neurones s'activent en même temps. Donc, il y a ces deux types de neurones très différents, et même au sein des neurones inhibiteurs, il y a plein de sortes différents les uns des autres. Et dans l'espèce humaine, il y a 3 fois plus d'inhibition que dans les autres espèces de primates. Ça pourrait correspondre à cette notion d'un cerveau symbolique. Pour faire un cerveau symbolique, il faut créer des opérations discrètes. Donc il ne faut pas activer trop de populations de neurones en même temps, il faut avoir des populations très discrètes, très séparées les unes des autres. Un petit peu comme un ordinateur. Le cerveau n'est pas un ordinateur classique, mais la thèse du livre, c'est qu'à un moment, il est quand même un objet symbolique. Donc il est capable de traitements discrets, et 17, c'est pas 18, ce sont des objets complètement différents. Pour ça, il faut peut-être inhiber fortement, sculpter l'activité neuronale pour avoir un tout petit nombre de neurones qui sont activés. Alors je raconte dans le livre, on commence à enregistrer des neurones humains. C'est très très excitant d'ailleurs, parce que jusqu'à présent, avec l'imagerie cérébrale, moi je vois des choses à l'échelle, disons, du millimètre. Dans un millimètre cube de cerveau humain, il y a encore plusieurs dizaines de milliers de neurones. Donc on les moyenne, on les voit pas les uns à côté des autres, on voit la moyenne d'activité. Aujourd'hui, il y a de nouvelles techniques qui sont en train d'émerger pour enregistrer plusieurs centaines de neurones, y compris dans le cerveau humain. Alors, je vous rassure tout de suite, on ne prend pas de volontaires, c'est pas comme ça que ça marche, mais on a affaire à des patients, et c'est dans l'intérêt des patients, ou en tout cas sans interférer avec leur pathologie, mais on met des électrodes dans le cerveau, en particulier de patients épileptiques, parce que on cherche, dans les cas vraiment d'épilepsie rebelle, à identifier la source des crises d'épilepsie, et en triangulant avec ces électrodes, on arrive parfois à identifier une source qu'on va à ce moment-là enlever par un geste chirurgical. Mais ça veut dire qu'on a des électrodes dans le cerveau, et si certaines de ces électrodes ont des micro-contacts, on est capable d'enregistrer quelques dizaines ou quelques centaines de neurones. Et alors on voit des neurones qui répondent à un nombre, des neurones qui répondent à un concept. Par exemple, il y en a un qui est très célèbre, c'est Luke Skywalker. On a identifié chez un de ses patients un neurone qui répond à Luke Skywalker et à rien d'autre, autant qu'on puisse dire. Enfin, si, il répondait aussi à Yoda. Donc, on ne sait pas très bien pourquoi.
Le jet de Star Wars. Voilà.
Donc, on commence à avoir un aperçu de cette singularité humaine. Vous ne trouverez jamais un neurone qui répond à Luke Skywalker chez aucun singe, par définition. Surtout que on les appelle des neurones de concept parce qu'ils répondent à l'image de la personne, mais aussi au nom de la personne, écrit ou parlé.
Donc c'est dans les champs de recherche qui sont très prometteurs, les neurones concept.
Ah oui, absolument.
Ça fait partie des choses les plus excitantes du moment.
Moi, je trouve, parce que si vous voulez, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que je suis persuadé qu'il y a un code neural spécifique à l'espèce humaine, singulier. Bien sûr, on a hérité de toute une évolution. On a vu, c'est des régions similaires qu'on utilise chez l'homme et chez le singe. Mais je pense qu'il y a une singularité dans la mesure où quelque chose s'est produit qui crée du nouveau. Et l'évolution, souvent, crée du nouveau. Quelque chose s'est produit qui a créé un code neural différent dans notre espèce. Comme l'immense majorité des recherches en neurosciences, bien entendu, sont faites chez l'animal, on ne l'a pas encore trouvé. Je suis persuadé que dans les 10 prochaines années, on va trouver ce code neural. Donc j'essaie de donner des pistes, et puis je raconte vraiment ce qu'on fait en ce moment dans le laboratoire. C'est vraiment ce qu'on est en train de faire. C'est le défi.
C'est passionnant. On arrive bientôt au bout de notre échange. Alors j'ai deux dernières questions. La première, c'est vous êtes président du Conseil scientifique d'éducation nationale. Fort de tout ça, vous dites quoi en termes de pédagogie?
J'essaye de tisser des liens entre les deux domaines. D'abord, au Conseil scientifique de l'éducation nationale, je ne suis pas tout seul, bien entendu. Il y a 30 autres scientifiques. Voilà. Mais je suis effectivement très préoccupé par les mathématiques et par le niveau en mathématiques. C'est en partie pour cette raison que je me suis orienté vers les mathématiques à nouveau au laboratoire pour essayer de mieux comprendre. Après, vous savez, j'ai travaillé pendant 25 ans ou 30 ans sur la lecture, où je crois qu'on a vraiment très très bien compris comment ça se passe la lecture dans le cerveau, et on a fait des recommandations au Conseil scientifique sur la manière d'enseigner la lecture.
Sur les mathématiques, on en connaît. C'est la façon d'apprendre qui s'est dégradée ?
On ne sait pas très bien, mais les données sont extrêmement claires, parce qu'en France, on fait d'excellentes statistiques. Sur les élèves, on a une baisse du niveau en calcul, par exemple, sur 30 ans. Une baisse, et on le sait très précisément, parce que le même test a été fait tous les 10 ans par l'éducation nationale. Et chaque 10 ans, on a perdu un demi-écart-type de la population. Donc pour ceux qui ont une idée un petit peu de la courbe en cloche, une courbe de Gauss, sur laquelle on peut placer chacun d'entre nous, eh bien, la courbe de Gauss, les 95% des gens sont à l'intérieur de deux écarts-types. D'accord. Donc quand on perd un demi-écart-type et que ça dure 3 fois 10 ans, on a perdu 1,5 écart-type. C'est-à-dire que la distribution des enfants d'aujourd'hui se recouvre peu avec la distribution des enfants d'autrefois, d'il y a 30 ans. On a vraiment perdu une très grande part de nos capacités dans ce domaine. Alors on peut dire l'arithmétique, c'est pas les maths, c'est vrai, mais malheureusement il y a aussi des tests internationaux comme PISA, comme TIMSS, qui montrent que la France est en retard sur d'autres pays. Tout le monde a perdu, hein, mais la France...
Tout le monde a perdu?
Oui, mais la France a plus perdu que d'autres. Voilà. Et quand je dis tout le monde est perdu, c'est pas vrai, non, j'exagère, parce qu'il y a des pays... D'abord, Singapour, par exemple, est systématiquement en tête des comparaisons internationales, ou la Chine, Hong Kong, etc., Shanghai. En Europe, d'autres pays ont réussi à remonter. Alors oui, la pédagogie. Moi, je crois que c'est clé. Hein. Donc il faut réussir à trouver des pédagogies qui sont plus en harmonie avec la manière d'apprendre de notre cerveau. On commence à en dégager certaines. Je suis très, très excité parce qu'on a au laboratoire un grand programme qui s'appelle Pionnier des maths, qui a l'air de fonctionner. qui consiste essentiellement à appliquer dans les cours de mathématiques, en CE2 et en CM1 pour l'instant, tout ce qu'on sait fonctionner sur le plan pédagogique et en harmonie avec les règles d'apprentissage de notre cerveau. Alors c'est ce qu'on appelle, d'abord il y a cette idée d'une méthode de Singapour. Et quand vous allez à Singapour, ils récusent cette idée-là parce qu'ils ont eux-mêmes pioché dans les années 70 ou 80 parmi les pédagogies qui marchaient ailleurs. Mais ils s'appuient sur le concret. Il y a cette idée de concret imagé abstrait qui correspond assez bien à ce que je vous ai expliqué. C'est-à-dire qu'ils vont commencer par des objets tangibles, concrets. Ensuite, on va les représenter, imagés, sous forme de diagramme sur le tableau. On va, par exemple, remplacer une longueur par une barre sur le tableau. Voilà. Et ça va, la barre va pouvoir représenter une longueur et donc un nombre. D'accord ? Et à partir de là, vous allez pouvoir expliquer, par exemple, les fractions. Une fraction, c'est un morceau de cette barre. Un tiers, c'est un morceau tel que si j'en prenais trois, j'aurais la longueur de départ. Donc je coupe la barre en trois parties égales. Voilà. Quand on explique un tiers de cette manière-là aux enfants, ils comprennent. Si on leur balance 1 bar 3, les symboles directement, ils ne comprennent pas. Ils sont complètement perdus et les fractions sont une étape vraiment difficile de l'apprentissage des mathématiques. Donc on a fondé une pédagogie sur concret, imagé, abstrait, totalement en harmonie avec le programme de l'éducation nationale. Donc je m'empresse de dire d'ailleurs que le programme est bon. Il a été révisé en partie avec l'influence du conseil scientifique, pour vraiment être apprenable, avoir cette notion de progression, de spirale progressive, en passant du concret à l'imagé ou à l'abstrait. Donc on arrive à enseigner maintenant mieux les concepts mathématiques. En tout cas, moi, j'ai beaucoup d'espoir. Hein. Mais on ne fait que revenir à des pédagogies qui fonctionnaient assez bien autrefois, une pédagogie explicite dans laquelle on démontre aux élèves comment procéder avec des objets mathématiques, et avec aussi énormément de, donc j'ai dit, de spirale, de retour vers les concepts et de tests. Se tester, c'est aussi apprendre. Ça fait partie des règles de base de l'apprentissage, d'alterner enseignement et test, enseignement et test, mise à l'épreuve de ses propres connaissances.
Dernière question rapidement parce que le temps file. On n'en a pas parlé, vous en avez parlé tout au début. Quelle est la capacité des intelligences artificielles à appréhender la géométrie? Vous avez dit oui, et galère, et elles sont obligées de manipuler tout un tas de données pour y arriver, mais elles commencent à avoir des fonctions récursives tout à fait épatantes. Elles progressent là-dedans.
Alors, il faut faire attention quand on parle d'intelligence artificielle parce que tout ce qu'on dit est faux la semaine suivante, n'est-ce pas?
Alors, néanmoins, aujourd'hui, le 2 avril,
et en fait, c'est quand même assez stable. Les intelligences artificielles qu'on appelle large language models s'appuient énormément sur le langage. Et comme on l'a vu, en tout cas j'y ai fait allusion, les mathématiques, ça n'est pas le langage naturel, c'est un autre réseau dans le cerveau. C'est un réseau qui est beaucoup plus fondé sur l'intuition des objets, de relations dans l'espace. Alors, effectivement, les intelligences artificielles actuelles ne sont pas bonnes en géométrie. Il y a d'ailleurs des tests formels de ça, y compris les meilleures d'entre elles, hein, le tout dernier ChatGPT ou Claude. J'en ai expérience tout récente parce que j'essayais de faire un cours. Et on aimerait bien que les cours puissent être automatisés, etc. Donc j'essaie de faire un cours, mais pour jeunes adultes, hein, sur les frises. Pour ceux qui connaissent les mathématiques, il y a un mathématicien extraordinaire qui s'appelle John Conway, qui est d'origine du jeu de la vie, et qui a aussi classifié les 7 sortes de frises qui peuvent décorer, par exemple, un temple grec. Il y en a 7. Alors j'ai demandé à Claude de me créer un cours, il a fait un truc formidable, une page HTML avec des titres magnifiques, une succession d'idées. Verbalement, c'était très bien. Toutes les images étaient fausses. Il n'avait aucune idée de ce que c'est qu'une symétrie et pourquoi les 7 sont comme elles doivent être, etc. Tout était faux. Et pourtant, je lui ai dit, mais fais référence à telle page où c'est expliqué par Conway lui-même. Il ne comprend pas. Donc il manque ces images mentales. Voilà. Ce dont on parle depuis le départ, ces intelligences artificielles ne voient pas. Elles n'ont pas d'images mentales comme nous pouvons les avoir nous, c'est-à-dire des images abstraites, sophistiquées, la notion d'une sphère dans toute sa beauté aussi. Hein. Ils n'ont pas ça.
On s'arrête là parce que la notion d'une sphère en toute sa beauté, je trouve que c'est une très belle fin. Stanislas Dehaene, merci infiniment d'avoir pris le temps de partager avec nous vos travaux de recherche et de les avoir mis au service du plus grand nombre dans ce bouquin qui s'appelle « Le rectangle de Lascaux » aux éditions Odile Jacob. Vous pourrez, pour le public, retrouver cet ouvrage au fond de la salle pour la séance de dédicace qui est à suivre à la librairie ou sur mola.com. Stanislas Dehaene, merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.